Voilà, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Je ne sais pas si ça va pour les micros. Voilà, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle soirée des mardis d'éthique publique du Centre Sèvres. Une soirée qui est organisée en partenariat avec la revue Études et ce soir également avec le CERAS, le Centre d'études, de recherche et d'action sociale. Donc j'adresse aussi mes salutations à tous ceux qui nous écoutent dans une bonne dizaine de villes, je pense. Je n'ai pas fait le compte exactement ce soir. Le sujet que nous avons retenu pour cette soirée est un sujet qui nous concerne tous. La planète pourra-t-elle satisfaire tous nos besoins, production alimentaire, énergie? Alors bien sûr, ce sujet ne relève pas de cette actualité du quotidien que traitent les médias. Mais il concerne bien évidemment notre actualité au sens le plus profond du terme, dans la mesure où il nous oblige à considérer la situation présente, à prendre conscience d'un certain nombre de phénomènes, à poser des questions, et c'est ce que nous ferons ce soir, nous amène aussi à préparer des décisions qui engagent l'avenir. Et là, il est clair qu'il y a des urgences. Comment concilier des besoins pour une part inconciliables ou qui paraissent tels, mais quels besoins privilégier également et quelles perspectives tracer? Ce soir, pour nous aider dans notre réflexion, nous accueillons deux spécialistes particulièrement avertis de ces questions, Monsieur Mathieu Calame, agronome, directeur de la Fondation pour le progrès de l'homme, expert des problématiques agricoles et alimentaires, et parmi vos publications, je note « Une agriculture pour le XXIe siècle, manifeste pour une agronomie biologique » et puis « La tourmente alimentaire pour une politique agricole mondiale », les deux qui sont parus aux éditions Charles-Léopold Meyer. Monsieur Michel Griffon, vous êtes déjà intervenu, je crois, dans ces soirées du Centre Sèvres. Vous êtes agronome, économiste. Vous avez dirigé l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Vous êtes spécialiste des problèmes de développement sous les aspects économiques, sociaux, écologiques et environnementaux. Parmi vos nombreuses publications, j'en relève deux dont les titres me semblent particulièrement accordés à notre réflexion de ce soir. Nourrir la planète pour une révolution doublement verte et puis pour un monde viable, changement global et viabilité planétaire. Alors je vous remercie déjà très vivement d'avoir accepté l'invitation à parler, l'invitation à nous éclairer ce soir au Centre Sèvres. Je voudrais vous remercier d'autant plus que cette soirée était prévue le 3 février dernier. Une certaine actualité a fait que nous avons pensé bon de prendre un autre sujet ce soir-là. C'était l'islam en France et vous avez accepté de reporter vos interventions à ce jour. Je vous en remercie vivement. Voilà, vous allez intervenir maintenant à peu près 25 minutes, 20-25 minutes au maximum. Et puis après quoi, comme d'habitude, s'engagera le débat avec vous tous, ici présents et au-delà de ces lieux. Monsieur Griffon.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux pour parler. Je vais vous faire une introduction rapide sur un mode un peu historique pour vous montrer qu'il y a des problèmes alimentaires qui sont anciens et que la problématique n'arrête pas de se renouveler. Et c'est une des problématiques, sans doute, à la fois les plus anciennes et les plus complexes, qu'il soit donné aux sociétés de gérer le problème alimentaire. Alors, je ne vais pas remonter, bien que citer, le fait que le genre humain a eu très tôt des problèmes alimentaires. À peine le genre humain était-il émergé, redressé en Afrique, qu'il passait d'un mode d'alimentation arboricole à un mode dans des savanes beaucoup plus sèches africaines. et passer à un régime alimentaire omnivore, dont nous ne sommes pas encore au bout de l'adaptation correspondante, notamment par l'évolution de notre mâchoire. C'est les spécialistes du Muséum d'Histoire Naturelle discours à loisir sur ces évolutions. Mais ce que nous connaissons du problème alimentaire depuis l'Antiquité, c'est essentiellement les sécheresses qui sont présentes dans la Bible, les changements de climat rapides, par exemple le fait que toute la population égyptienne qui vivait dans la zone actuellement désertique a dû se rabattre sur le Nil et inventer une agriculture à base d'irrigation, ainsi qu'un état organisateur, ce qui est une des premières grandes évolutions dans l'histoire du monde. Et puis il y a des aléas extrêmement ponctuels, mais extrêmement dangereux, par exemple les volcans. Les volcans indonésiens, par exemple, sont responsables de centaines de milliers de morts dans le monde parce que pendant 2 ans, 3 ans, ils créent une couche de particules dans l'atmosphère qui empêche le soleil de passer. 1816 en France a été une année sans été et avec de nombreux morts dus au fait que la production photosynthétique était stoppée. Il y a des accidents. Je prends le mildiou de la pomme de terre en Irlande, qui a été à l'origine d'une très grande famine et de la migration des Irlandais aux États-Unis. Il y a beaucoup d'événements de cette nature, des sécheresses ponctuelles, et parmi les sécheresses ponctuelles, il y en a qui sont encore très présentes à l'esprit, 1974 au Sahel, 1984 en Éthiopie. Mais derrière tout ça, il y a un mécanisme permanent, découvert, mis à jour par Malthus au XVIIIe siècle en Europe, car l'Europe subissait ce phénomène que je vais décrire rapidement. Les sociétés qui vivent dans des milieux favorables se déploient, se multiplient, utilisent les milieux, consomment les milieux productifs, mais au bout d'un certain temps abusent. Il y a les surpâturages, les surutilisations des sols, des dégradations des sols, les technologies n'est plus suffisante, l'alimentation vient à être insuffisante, il en résulte des disettes, des pénuries, et les populations n'ont pas d'autre choix que de partir, au moins une partie d'entre elles, de migrer, et si elles ne peuvent pas migrer, elles connaissent un sort tragique, et si par bonheur elles inventent une technologie qui permette de rester sur place, d'accroître le rendement, eh bien, cette technologie permet à la société de se redéployer à nouveau. Donc, ce schéma malthusien est un schéma dramatique, puisqu'il a rendez-vous avec la migration, avec la mort ou le renouveau technologique. Et puis, il y a les famines politiques, je les signale quand même, parce que ce sont celles qui nous rapprochent du XXe siècle et qui ont été les plus meurtrières. Staline, quelques millions de morts avec les paysans. Mao Tse-tung avec le grand bond en avant, des millions de morts aussi. Et puis des situations dramatiques, par exemple l'ex-Rhodésie, le Zimbabwe, où la réforme agraire extrêmement radicale a abouti à un appauvrissement généralisé de la population, là où était un des greniers de l'Afrique australe. Donc, la démographie, son extension, l'occupation du sol, les limites de la capacité des milieux à produire, les limites des technologies, les migrations, sont des choses qui sont permanentes dans l'histoire des sociétés et qui existent encore aujourd'hui. Alors, si nous nous rapprochons des temps présents, nous avons connu une situation très caractéristique en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Déjà avant la Première Guerre mondiale, l'Europe était très peuplée et importait une grande partie de son alimentation. Elle était en crise alimentaire. La guerre a accentué la crise alimentaire. Le plan Marshall a été le déclencheur de la modernisation, semences, variétés adaptées, utilisation des engrais, mécanisation, tracteurs, etc. Puis la politique agricole commune. Et il y a eu cette très grande transformation de l'agriculture européenne avec quadruplement des rendements. La même chose s'est produite une quinzaine d'années après avec un déclenchement en Inde, en Chine et ensuite dans toute l'Asie, avec ce qu'on a appelé la révolution verte, avec les mêmes techniques mais dans leur version tropicale. Les États-Unis ont mis en place en transition l'aide alimentaire et puis petit à petit les marchés internationaux de produits alimentaires se sont aussi déployés, si bien que les régions excédentaires ont commencé à vendre aux régions déficitaires, les grands excédents étant à l'époque aux États-Unis, puis ensuite en Europe. Avec le nouveau siècle, le 21e siècle, la situation est différente. D'abord, il y a 1 milliard de sous-alimentés. Pour les trois quarts, ce sont des agriculteurs, ce qui est une question très importante, puisque ceux qui devraient les premiers vivre de l'agriculture sont les premiers à ne pas pouvoir en vivre. L'explication, vous le savez, est ailleurs, elle est dans la pauvreté. Et c'est cette pauvreté, cette difficulté d'accès à la nourriture par la pauvreté, difficulté d'accès aux moyens d'existence, difficulté d'accès à la terre, au crédit. C'est une des explications des 75% d'agriculteurs dans le milliard de sous-alimentés. Et il y a environ 40 à 50 millions dans ce milliard qui sont dans nos pays occidentaux. Alors nous sommes dans une nouvelle configuration. Il y a eu, et il y a développement de la libéralisation du marché des produits alimentaires. Ce marché, on peut le décrire très simplement, il y a des pays qui sont de plus en plus lourdement acheteurs, la Chine, l'Inde et tout le pourtour méditerranéen, pour des raisons différentes. La Chine, parce que la population est importante, les classes moyennes s'accroissent, il y a de l'argent à dépenser, donc on achète. La Méditerranée, parce que l'écologie est une écologie sèche, avec peu de ressources en eau, et il faut importer pour survivre. Et d'où viennent les excédents? Ils viennent du Brésil, parce que le Brésil a une réserve amazonienne et un climat qui est favorable à la production. Ils viennent de l'Argentine, ils viennent encore des États-Unis et de l'Ukraine, de l'Australie et de quelques autres pays. L'émergence des classes moyennes dans un certain nombre de ces pays accroît de façon impressionnante la consommation alimentaire, la demande. Et il y a eu à peu près vers 1990-1995 ce que je qualifie d'un coup de tonnerre qui est passé assez inaperçu, c'est que toutes les grandes régions du monde qui avaient connu un triplement, un quadruplement de rendement connaissent maintenant un plafonnement. Autrement dit, la population continue à s'accroître en Chine, en Inde, en Asie, en Afrique, où elle s'accroît encore très rapidement. Et partout où l'agriculture s'est modernisée, il y a un plafonnement. Il y a eu, en ce début du 20e siècle, du 21e siècle, une baisse des stocks. Et personne ne s'est méfié, mais deux années de sécheresse, un aléa ponctuel en Australie, pays exportateur de 10 millions de tonnes de céréales par an, a asséché le marché, a créé une pénurie. Cette pénurie, tout le monde s'en est rendu compte en même temps. Les prix ont monté. Il y a eu addition d'une spéculation sur la rareté des prix des céréales. Peur en Asie de manquer de riz. Tous les pays ont fermé leurs frontières. Les prix sont montés en flèche et nous avons connu la première crise alimentaire mondiale, due à la mondialisation par les mécanismes de marché, puisque la même semaine, 30 pays, 30 capitales, 30 grandes villes du monde sont entrées en ébullition parce que les populations ne pouvaient plus acheter, elles qui reçoivent un salaire journalier, les plus pauvres, ne pouvaient plus acheter des produits alimentaires dont le prix avait triplé. Je vous invite à considérer que cette affaire est de la plus haute importance, puisque le problème alimentaire est d'emblée devenu mondial, pour cette raison. Donc les choses changent. Tout cela fait qu'on a identifié une tension un peu permanente, tension entre la courbe démographique et la courbe des besoins accentuée par la courbe de l'amélioration des revenus des classes moyennes dans une grande partie du monde. Donc ça fait une courbe ascendante rapide et il faut que la courbe de l'offre alimentaire soit aussi rapide dans son ascension pour éviter les tensions sur les prix et les disettes, voire les famines pour les plus pauvres. Ces tensions se traduisent au plan géopolitique par un phénomène dont vous avez peut-être entendu parler, qui est que les pays déficitaires essayent de s'assurer de propriété de la terre ou de contrat à long terme d'utilisation de la terre pour pouvoir avoir une garantie d'approvisionnement. Le futur, maintenant, pour terminer, eh bien, le marché international est installé. Il y a maintenant de plus en plus de grands déficits régionaux et de grands excédents. Le marché devient très important. La Chine, l'Inde, l'Afrique, la Méditerranée sont importateurs, surtout la Chine et la Méditerranée. Le Brésil, l'Argentine, la Russie, si elle le veut, l'Ukraine, peuvent devenir de plus en plus exportateurs. Et il y a une grande nouveauté, c'est le changement climatique. Le changement climatique risque de changer tout ce marché international, puisque le danger porte sur le Brésil. Le Brésil peut devenir beaucoup plus sec, la Méditerranée beaucoup plus sèche, le sud de l'Europe, l'Inde, une partie de la Chine et une bonne partie de l'Afrique australe. Mais Mathieu va développer vraisemblablement ce point, donc je n'épilogue pas. Nous allons connaître aussi la fin du pétrole d'ici la fin du siècle, même avant. Le problème qui va se poser, c'est que pour produire du fuel, donc de l'énergie liquide, le premier candidat, c'est d'utiliser l'agriculture dans sa capacité de produire de la biomasse. Et vous comprendrez aisément que remplir les réservoirs et remplir les estomacs, ça va être quelque chose, vous m'excuserez de ce raccourci saisissant, mais ça va devenir un problème très important à l'échelle internationale. Les États-Unis, par exemple, se sont retirés des exportations alimentaires et utilisent une bonne partie de leur production de maïs pour produire du biofuel, mais ils ont trouvé du gaz de schiste en attendant. Donc vous commencez à toucher du doigt, mais là aussi Mathieu va en parler, la relation entre le problème alimentaire et le problème de l'énergie du futur. Alors le futur lui-même, que peut-on en dire à part cela? Eh bien que si les sociétés sont capables de maîtriser rapidement l'énergie solaire et de capturer cette énergie solaire, la rendre durable, il n'y a pas de soleil la nuit, donc le problème c'est de transformer en carburant, et le carburant c'est l'hydrogène, eh bien nous pourrions, c'est ce que les prospectivistes les plus optimistes annoncent, retrouver une société d'abondance énergétique qui pourrait résoudre en partie les questions alimentaires par la désalinisation de l'eau de mer avec une énergie abondante et bon marché. Mais en attendant, il nous faut rapidement résoudre un certain nombre de questions. Plus de 50% de la production végétale du monde sert à alimenter des animaux qui servent à alimenter les humains, avec un faible rendement, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de végétaux pour produire une quantité de viande, et les classes moyennes du monde nous imitent, c'est-à-dire mangent de plus en plus de viande. Vous comprendrez que c'est un mécanisme qui va trouver ses limites. Il y a des questions que l'on aborde pas très souvent, mais il y a un problème du côté du phosphore. Le phosphore, nous en mangeons beaucoup. Il est constitutif de notre squelette, il est constitutif de notre cerveau, il est constitutif de notre ADN. Nous ne pouvons pas nous en passer, sauf à être flasques intellectuellement et corporellement. Et le phosphore, eh bien, il est limité à l'échelle de la planète. Il y a encore une vingtaine d'années, on se demandait s'il y en aurait pour 40 ans ou 600 ans. Avec le temps, les prospectives se resserrent. Il y y en a peut-être pour 80 ans, 100 ans, c'est demain matin, et il va falloir économiser le phosphore, recycler le phosphore. Il y a déjà des entreprises allemandes qui le font avec une haute intensité. Donc le phosphore va coûter plus cher, et comme le phosphore est un des engrais clés avec l'azote, et que l'azote dépend du pétrole, plus exactement dépend du gaz naturel, qui lui-même est une ressource limitée, vous voyez qu'à long terme, il y a quand même quelques nuages. Donc, il va falloir inventer une agriculture qui sache recycler une grande partie des ressources qu'elle utilise. Il va falloir inventer une agriculture qui soit intensive en ressources naturelles, intensive en mécanismes écologiques, pour réduire progressivement toutes les pollutions dont l'agriculture moderne est l'auteur. Il va falloir inventer une agriculture proche des villes, à haute densité, une sorte de maraîchage. Il y a, par exemple, toute la côte est du Brésil qui, dans 40 à 50 ans, pourrait avoir de l'ordre de 400 à 450 millions d'habitants. Ces habitants vont être en situation de compétition pour la terre, et il suffit d'aller dans la région parisienne, de voir là où s'est installé Disneyland, pour voir parmi les meilleures terres d'Europe utilisées pour l'urbanisation. Donc cette question des choix d'urbanisation ou des choix d'utilisation du sol pour l'agriculture va incomber à l'avenir à la plupart des sociétés. Il y a des questions pour le moment encore sans réponse. Les prospectives population pour l'Afrique en 2100 s'établissent autour de 3,4 à 3,6 milliards d'habitants. Personne ne sait à cette échéance quel type d'agriculture pourra les nourrir, ni même d'ailleurs quel type d'emploi pourra les occuper. Et puis plus proche de nous, bien qu'en faisant de la prospective, l'horizon des guerres semble se reprofiler au Moyen-Orient, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Est, de l'Ouest, en Asie, d'autres régions de façon plus ponctuelle. Et ces guerres, en se multipliant, créent des réfugiés, et les réfugiés créent des pôles importants de consommation alimentaire pour lesquels il n'y a pas d'autres ressources que l'importation ou l'aide. Donc, vous voyez que, à travers le temps, la problématique a évolué. Il reste de la problématique malthusienne, il reste de la problématique guerrière, il reste de l'évolution climatique. Il y a du changement climatique beaucoup plus important dans le futur que dans le passé. Il y a la fin du pétrole, il y a la fin du phosphore. Donc, un ensemble de problèmes tout à fait nouveaux qui sont en train de se poser et qui vont renouveler la question alimentaire. Voilà pour cette introduction dont je conviens qu'elle ne soit pas des plus joyeuses.
Voilà, merci beaucoup Michel Griffon pour cette introduction qui annonce quelques nuages, quelques orages même, semble-t-il, ici ou là, mais en tout cas vous nous aidez à prendre conscience d'événements dont nous ne sommes pas du tout conscients, enfin en tout cas je pense pour la grande majorité d'entre nous, des problèmes auxquels nous ne pensons pas et qui grâce à vous je crois deviennent beaucoup plus actuels. Et ces nuages, il est évident qu'ils appellent des décisions, et c'est bien le sens des analyses qui sont faites que de pouvoir préparer des politiques et préparer des consciences. Nous continuons. Je ne sais pas s'il y aura d'autres nuages. Mathieu Calam.
Oh non, nous nous étions répartis les rôles et donc je vous apporte tout de suite toutes les solutions clés en main. Non.
L'ombre malheureusement. La lumière.
Alors, je vais essayer. Donc, je travaille pour une fondation. On essaye de suivre ce qui se passe au niveau international aussi sous un angle politique, il faut bien le dire, puisque vous avez tous compris que nous rentrons à nouveau dans une période très chargé politiquement, et quand je dis ça, ce n'est pas les négociations entre les Verts et le PS pour savoir s'il y aura deux places. Non, c'est vraiment la géopolitique mondiale qui s'est remise en route, ce qu'on croyait passer il y a une quinzaine d'années. comme quoi l'histoire finit toujours par revenir. Et donc, je vais essayer peut-être de réexprimer, de reprendre un peu ce qu'a dit Michel et d'essayer de voir en quoi ça interpelle un certain nombre de crises qui sont probablement structurelles. J'en vois trois et sans doute une quatrième pour nous qui sommes occidentaux. Donc, la crise écologique, nous sommes l'année de la COP climat. Donc, je vais revenir un peu sur cette question du lien entre agriculture et énergie. La crise géopolitique, j'y reviendrai aussi puisque, bon, pour ceux d'entre vous qui lisent, je présume c'est le cas de la plupart d'entre vous, le journal ou qui écoutent la radio, vous comprenez bien que la communauté internationale, disons, est un devenir plus qu'une réalité, et la crise sociale qui effectivement percute tout ça ou est la conséquence de tout cela. Et enfin, j'aborderai cette question peut-être de savoir s'il y a une crise un peu anthropologique de la manière dont nous, les Occidentaux, nous avons pensé le monde et comme nous l'avons quand même façonné au 19e, au 20e siècle, si ça n'interpelle pas aussi cette question-là. Mais comme nous sommes quand même juste après Pâques, après trois parties un peu sombres, je parlerai de résurrection. Et comme Michel a évoqué les premiers hommes qui se sont mis debout, qui ont chassé. Un ami pasteur me disait que dans la Bible, le terme pour ressusciter, le terme grec, c'est se lever. Voilà. Donc, on parlera de la manière de se lever. Alors, d'abord, pour la question écologique, c'est clair, notamment quand on évoque les très, très belles performances de l'agriculture industrielle, telles que nous les avons connues dans le dernier siècle. Elles reposent essentiellement sur une consommation accrue d'énergie fossile. C'est-à-dire que les rendements que nous avons obtenus par hectare augmentent par hectare et par homme, mais se font au prix d'une consommation de plus en plus grande de pétrole, de gaz, de charbon via les engrais, via les tracteurs. Alors simplement pour vous faire songer à une chose, c'est que mais d'où viennent ce pétrole et ce charbon au fond ? Eh bien c'est le reliquat, l'excès de fertilité des écosystèmes d'il y a plusieurs millions d'années. Du carbonifère. Donc, par exemple, quand vous êtes à votre pompe et que vous mettez de l'essence dans votre voiture, c'est l'excès de fertilité des écosystèmes d'il y a plusieurs millions d'années, plusieurs dizaines de millions d'années, que vous êtes en train de verser dans votre réservoir. Alors, ça fait réfléchir parce qu'au fond, une grande partie de l'agriculture reposait sur l'abatis brûlis, la première agriculture dans laquelle on brûlait la forêt et on utilisait la fertilité du sol forestier qui avait une centaine d'années ou 200 ans pour produire. Et on a fait beaucoup mieux, nous, on extrait les excédents de fertilité de forêts qui ont disparu il y a plusieurs millions d'années. Mais agronomiquement, est-ce qu'on a fait des systèmes plus efficaces au sens où ils utiliseraient mieux, sans apport extérieur d'énergie, l'énergie solaire ? C'est pas sûr, ça se discute. En tout cas, l'équilibre est à travailler. D'où ce qui explique d'ailleurs que les bilans de ce qu'on appelait les biocarburants ou les agrocarburants, disent certains, ne sont pas très bons parce qu'effectivement, extraire de l'huile à partir d'un végétal, etc., ben, vous n'avez pas un bilan extraordinaire, voire des fois, vous avez des bilans qui sont légèrement supérieurs. Hein. En fait, vous utilisez plus d'énergie que vous n'avez produit d'huile à la fin si vous comptez tout ce qu'il faut. Donc, la réponse technique de ce point de vue-là, en termes d'agrocarburants, n'est pas évidente. Alors, ceci dit, bien sûr que l'agriculture, l'énergie, ça pose problème, mais j'aimerais quand même vous rappeler un chiffre. Les évaluations de l'ADEME, c'est que les émissions carbone d'un Français dans l'année pour manger, parfois mal, c'est 1,2 tonnes par an. Un voyage aller-retour Paris-Saint-Denis de la Réunion, c'est 2,2 tonnes. La question qui nous est posée, c'est est-ce que la planète pourra satisfaire nos besoins ? Et là, il y a deux mots. Il y a « nos », c'est qui, nous ? Et il y a « besoin », c'est quoi un besoin ? Lors de l'hiver 1702-1704, les hivers les plus durs de la fin du règne de Louis XIV, les chevaux du roi et de l'armée ont continué à manger. Entre les transports et la population, on a choisi une certaine forme de transport. Et cette question se pose à nous, quand on prend l'avion, quand on utilise nos voitures. Si nous étions tous des êtres raisonnables, équitables, souhaitant que tout le monde mange, le problème ne se poserait peut-être pas de la manière aussi aiguë qu'il se pose en termes de contraintes sur l'environnement. Donc ça nous fait réfléchir, c'est-à-dire quand on dit nos besoins, qu'est-ce qu'un besoin ? Et effectivement, on serait tous, tombera tous d'accord qu'il y a un besoin primaire qui est de manger, il est plus légitime que les autres. Malheureusement, nos modes de vie, nos comportements, nos habitudes, notre certaine idée de ce que c'est vivre, des fois rentrent en contradiction avec ce sentiment premier. Et effectivement, on utilise beaucoup plus de carbone pour voyager qu'un Indien pour manger. Voilà pour la partie écologie, etc. La question géopolitique, elle est évidemment cruciale parce que si l'Europe, les États-Unis ont réussi les très belles performances agricoles de l'immédiate après-guerre, c'est qu'ils ont eu des politiques agricoles. Ces politiques agricoles, elles n'ont d'ailleurs pas été propres à l'Europe et aux États-Unis. Bon, les Soviétiques en ont fait à la manière dont les Soviétiques faisaient des politiques. Mais par ailleurs, les Occidentaux eux-mêmes, en Asie, au Japon, à Taïwan, etc., ont mis en place des politiques agricoles. Et si le monde s'est nourri, c'est d'abord grâce à ces politiques. Non pas que les innovations techniques aient été négligeables, mais il faut être très clair, s'il n'y avait pas eu ces politiques-là, les innovations techniques n'auraient pas suffi. Pour nourrir le monde, il faudra des politiques agricoles. Pour nourrir l'Europe, il a fallu une politique agricole européenne. Pour nourrir le monde, il faudra une politique mondiale. Oui, mais pour avoir une politique mondiale, il faut se mettre d'accord. Et c'est là qu'on rentre dans le problème géopolitique de la défiance très très forte qui marque actuellement la plupart des grandes puissances. C'est vrai qu'après 1989, excusez-moi du lapsus, on a eu un âge d'or d'une douzaine d'années, durant lesquelles on va dire que c'était l'hyperpuissance américaine et le grand président, c'était Bill Clinton. Donc c'était une hyperpuissance gentille. Et c'est vrai que c'est idéal parce que un monde sans hyperpuissance, c'est difficile à concevoir, même si on peut avoir l'espérance d'un ONU qui soit la montagne d'Élie avec les nations qui convergent. Mais globalement, dans l'histoire du monde, quand vous regardez les hyperpuissances qui ont dominé le monde, à commencer par la Grande-Bretagne et la France, ce qu'elles ont fait dans leur imperium n'est pas toujours très sympathique. Ça ne veut pas dire que les États-Unis ont été une puissance sans tache, mais disons que de 1989 à 2001, on a eu un peu un rêve d'un monde dans lequel l'histoire serait finie. Depuis 2001, et de manière accélérée depuis 2007-2008, c'est très difficile de savoir comment vont se prendre les décisions. On le voit sur le climat typiquement, mais l'OMC, dont tout le monde parlait beaucoup jusqu'en 1995, tout le monde se mobilisait sur l'OMC. Vous prenez les journaux des deux dernières années, vous cherchez le nombre d'articles sur l'OMC, vous en voyez très peu, parce que le processus est encalminé. Et puis, je pourrais multiplier comme ça les cas où, en fait, la plupart des grandes puissances préfèrent négocier des accords bilatéraux plutôt que rentrer dans du multilatéralisme. Et ça, je ne vous le cache pas que c'est une vraie et immense préoccupation. J'aurais envie de dire, pour moi, c'est la première préoccupation, parce que de la capacité des nations à discuter entre elles découle leur capacité d'agir ensemble et de résoudre énormément de problèmes. Et là encore, on peut avoir des espérances locales en disant qu'on va développer telle ou telle technique. Mais enfin, vous savez ce que c'est, une technique, hein, la machine à coudre et la Kalachnikov, c'est le même mécanisme. Donc une technique, elle est forcément ambivalente et c'est l'homme qui décide d'en faire un outil de paix ou un outil de guerre. Et donc si vous êtes dans un contexte belliqueux, les technologies se développeront pour les fins belliqueuses. Alors on reviendra après peut-être dans la partie optimiste sur qu'est-ce qui pourrait nous faire penser que quand même on pourrait sortir de l'ornière. Et le dernier point, c'est la question sociale, alors qui traverse maintenant la plupart des sociétés. En 1984, Margaret Thatcher a dit que la société, ça n'existait pas. There is no such a thing like society. Malheureusement, c'est Aristote qui avait raison contre Margaret Thatcher, c'est que l'homme est quand même un animal politique, un animal social, et quand il n'y a plus de société, les tensions sociales croissent. Et elles croissent, non sans lien d'ailleurs avec la géopolitique, puisque c'est malheureusement un cas de figure de l'histoire, le fait que quand un corps social commence à avoir des tensions irrépressibles, il a, s'il est suffisamment fort, tendance à les extérioriser. Typiquement, la Grèce qui a été évoquée tout à l'heure, elle a colonisé la Méditerranée parce qu'elle était les cités grecques qui étaient en crise sociale permanente, liée d'ailleurs souvent à des questions agricoles et alimentaires. Et donc, on voit que se multiplient des inégalités qui, avec les investissements venus de l'étranger, font que, typiquement, l'accaparement de terres se fait au détriment de certaines communautés. Et évidemment, vous comprenez que les plus grandes puissances externalisent leurs tensions, mais ne les font pas disparaître, et ces tensions se recréent ailleurs, et donc vous créez toute une série de bombes. On peut se demander d'ailleurs s'il n'y a pas un lien entre cette déflagration du Moyen-Orient avec l'ensemble de ces tensions accumulées depuis plusieurs décennies maintenant, en fait depuis le démantèlement de l'Empire ottoman. Et cette crise sociale, elle n'est pas simple parce qu'elle va avoir besoin d'États régulateurs. En général, quand l'heure du politique revient, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec des multinationales ou avec des fondations comme la mienne ou des organisations de la société civile. À la fin du fin, la question redevient politique. Et donc, vous voyez bien la contradiction entre des pays qui sont interreliés, mais qui doivent maintenant résoudre leurs problèmes ensemble, qui n'y arrivent pas, mais donc qui vont essayer de chercher des problèmes à leur solution propre, mais ça veut dire se déconnecter ou extérioriser les problèmes. Donc, tout ça crée des liens très, très forts. Alors, quatrième point, oui, je crois que je me dépêche peut-être. J'en ai arrivé à peut-être la question maintenant, avant de me diriger vers la partie optimiste, la question peut-être d'une crise anthropologique pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire de quelle manière finalement c'est la vision du monde des Occidentaux qui est remise en question par ces crises. Pourquoi je fais cette hypothèse ? Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans la mesure où c'est nous qui avons dominé le monde pendant un siècle et demi, on peut légitimement se demander si les crises que traverse le monde ne sont pas liées aux mutations qu'on lui a fait subir. Non pas que le monde d'avant n'avait pas de crise, bien sûr, mais simplement, voilà, on est responsable de ce qu'on a apprivoisé, on a créé la mondialisation, etc. Alors, c'est clair qu'avec la Renaissance, le mythe de Prométhée, l'homme pratiquement divin dans ses capacités de développement, avec Bacon et le Novum Organum, l'idée qu'avec la technique et la science, on allait, par des laboratoires, on allait réussir à résoudre tous les problèmes. On a une magnifique vision. D'ailleurs, pour ceux qui... On parle souvent du cartésianisme, mais Bacon est antérieur à Descartes, et Descartes l'a lu. Et c'est le Novum Organum que je vous invite à lire, parce que c'est vraiment... C'est l'évangile de la vision d'un monde mis au service de l'homme. Et c'est une vision, avec ce qu'elle a d'ailleurs de très positive, les réalisations exceptionnelles qu'elle a eues, mais avec cette idée qu'on va vraiment maîtriser, qu'on va développer une puissance, un contrôle du monde. Et si j'en regarde, disons, la partie la plus sombre, si vous lisez l'Antéchrist de Friedrich Nietzsche, il y a l'affirmation que la vie, parce qu'il en fait non pas seulement une loi de l'homme, mais une loi de la vie est volonté de puissance. Et ça, c'est très très fort chez nous les Occidentaux. On va résoudre les problèmes par la puissance, par un surcroît de puissance énergétique notamment. Qu'est-ce que l'énergie, sinon de la puissance potentielle qu'on mobilise pour résoudre les choses. Or, la puissance est très efficace quand vous pouvez résoudre le problème en brisant quelque chose. Vous êtes emprisonné dans un mur, vous allez utiliser de la puissance. Vous avez envie d'aller plus vite, le mur du son, pour le briser, vous allez utiliser de la puissance. Vous avez un adversaire, vous allez l'affronter. Vous avez les plantes, vous allez casser le noyau pour essayer de voir ce qu'il y a dedans. Donc, il y a quand même toute une logique de la capacité de décomposer par la force. Qu'est-ce qui se passe quand le problème que vous avez, c'est le vide ? Parce qu'il y a deux types de limites dans le monde. Il y a le mur et il y a le vide. La puissance ne fonctionne que si vous l'exercez sur quelque chose de solide. Mais quand ce que vous avez à gérer, c'est plus de phosphore, plus de pétrole, plus de société, plus de régulation, c'est du vide que vous allez gérer. Et la puissance ne peut rien contre le vide. Vous pouvez exercer toute la force que vous voulez sur le vide. La seule chose qui se passera, c'est que vous tomberez, parce que vous perdrez votre équilibre. Et donc, on va quand même devoir changer notre métaphore prométhéenne, le feu. Et c'est là que nous entrons dans la partie optimiste. Le jardinier. Alors, après tout, notre histoire théologique commence dans le jardin d'Éden. C'est la promesse, et c'est vers ça qu'il convient de retourner. et de retrouver peut-être cet esprit du jardinier qui est de prendre soin. Il ne s'agit pas de ne pas agir. Le jardinier, vous voyez, est quelqu'un qui agit en permanence. Mais si vous regardez un jardinier qui taille un arbre, par exemple, il ne fait pas lui qui choisit où le bourgeon apparaît. Il va choisir dans les branches qui ont été produites par l'arbre d'en garder certaines et d'en supprimer d'autres. Donc son acte est un acte d'accompagnement, de respect de la dynamique qui est propre à l'écosystème. Et fondamentalement, le fait qu'on se retrouve dans notre petite terre, avec le risque très fort de l'épuiser, fait qu'on est tous amenés à devoir réfléchir dans ces termes-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va tailler, par exemple, dans nos besoins, qu'est-ce qu'on va décider d'une certaine manière de tailler dans nos relations, on va en abandonner certaines, développer d'autres, etc. etc. Donc toute une attitude d'accompagnement, alors qui effectivement, bon, on peut se poser la question de savoir, oui, mais alors si les autres continuent à utiliser la puissance, qu'est-ce qu'on fait? Belle question. Question très chrétienne, s'il en est. On est obligé à un moment de faire le pari que l'union des gens qui vont souhaiter arriver à un équilibre, à une négociation, l'emportera sur ceux qui sont animés par la volonté de puissance. Et si je veux faire la liste des signes positifs, je trouve que l'accord récent entre la Maison-Blanche et l'Iran, les négociations avec Cuba, montrent quand même que le leadership américain change de nature. Et on revient aux années Clinton, mais encore en plus intelligent encore. Donc, quelque part, la principale puissance du monde, même si elle est très affaiblie par certains côtés, elle est en train de changer de comportement. Le régime chinois est assez dur, je reconnais, mais il a aussi conscience qu'il est arrivé aux limites de son système de développement. Et donc, quand vous avez ces pays comme ça qui commencent à négocier, vous avez des fenêtres d'opportunité qui s'ouvrent. Alors, dernier mot maintenant sur ce que les Européens devraient faire. Moi, je crois qu'on a eu un très bon exemple de politique agricole commune, dont on sait les limites aussi. L'Europe, c'est un endroit où la question de l'emploi, alors ça va être très provocateur ce que je vais dire, mais la question de l'emploi ne se pose plus. Non pas qu'il n'y ait pas de mal-emploi, mais c'est vraiment dû à notre dysfonctionnement. On n'est pas en face de masses démographiques qui naissent. C'est même un scandale qu'il y ait des jeunes au chômage en Europe. On est sidéré. Qu'il y ait des jeunes au chômage dans un pays où 50% de la population a moins de 25 ans, on comprend que la société n'arrive pas à absorber cette croissance. Donc normalement, on devrait résoudre ça beaucoup plus élégamment. On a beaucoup de connaissances. On est saturé en équipement. On ne peut plus prétendre qu'on a besoin d'une autoroute en plus, sauf pour créer de l'emploi factice, etc. En d'autres termes, avec le Japon, nous sommes probablement le continent qui a la possibilité et le devoir moral, compte tenu de son poids sur le passé, d'inventer la transition sociale et écologique. Il n'y a pas beaucoup de nations dans le monde qui sont dans cette position-là. En plus, globalement, on est quand même protégé par les États-Unis, donc on ne peut pas dire qu'on ait besoin de dépenses militaires fantastiques. Peut-être qu'il en faudrait un peu plus compte tenu de l'ami Poutine, mais là, ça se discute. Donc, a priori, on a toutes les cartes en main pour réussir cela. Et je dis franchement, nous avons ouvert la parenthèse de la modernité avec tous ses avantages et ses inconvénients. Je crois que ce sera à nous de la refermer élégamment pour ouvrir la suivante.
Voilà, merci pour cette réflexion à la fois dans sa dimension anthropologique et puis géopolitique, puisque nous percevons bien l'ampleur des questions qui se posent à ce niveau. Alors, nous avons maintenant du temps pour entrer en discussion avec nos intervenants, poser des questions. Voilà, une première question sur la droite.
Bonjour, Jean-Claude Devez, Pax Civique. Donc j'ai une question à Michel Griffon sur les problèmes de la viande. En fait, sur ce problème de la viande, tu nous as dit à juste titre qu'il y avait une bonne partie de ce qui était cultivé qui allait pour nourrir les animaux. Mais ce qui me gêne, c'est qu'on oublie trop souvent le pastoralisme. On a beaucoup plus de pâturage naturel dans le monde que de terres cultivées. Et donc, il est important de voir quelle va être l'évolution du pastoralisme à l'avenir. Donc, ça me semble une question importante. Et à Mathieu Calam, pour moi, ce que j'aimerais, c'est aller un peu plus loin sur les équilibres. J'aime bien le problème par rapport à la puissance et le vide, il faut trouver un bon équilibre, mais j'aimerais bien aussi que par rapport aux écosystèmes, on aille plus loin dans les équilibres des écosystèmes et comment l'agro-silvopastoral, etc., vers quels équilibres on peut aller et comment finalement l'agriculture est une école d'équilibre aussi. Et finalement, derrière ça, on a un problème de coupure du monde urbain avec le monde rural et l'agriculture qui nous éloigne de certains de ces équilibres.
Voilà, merci. Nous prenons encore deux questions. Une question au premier rang qui nous vient avec fidélité de Bordeaux.
Voilà, donc il y a un auditeur de Bordeaux qui pose une question qui s'adresse aux deux participants, qui est en entendant tout ce que nous venons d'entendre, qu'est-ce que nous, individuellement, nous pouvons faire face à cette situation ?
Voilà. Peut-être une dernière question dans ce... Voilà, bon, écoutez. Alors, je ne sais pas dans quel ordre. Michel Griffon.
La première question de Jean-Claude Devez. Donc, soyons un petit peu plus techniques pour en même temps montrer que les choses ne sont pas simples. Nous mangeons des végétaux et des animaux. Dans les végétaux, nous mangeons des végétaux qui apportent de l'énergie, d'autres qui apportent, comme le pain, les céréales, d'autres des fibres, comme les légumes, d'autres des lipides, des graisses. Et dans les animaux, nous mangeons des animaux comme les volailles et les porcs, qui, eux, se nourrissent principalement de grains, et nous pourrions manger les mêmes grains qu'eux. Et puis, il y a les animaux qui se nourrissent d'herbes, et nous ne pouvons pas manger d'herbes, sauf un peu de salade, parce que nous ne pouvons pas la digérer. Donc, quand on accuse les vaches de manger trop, on a tort. Les vaches mangent de l'herbe, alors qu'il s'agisse d'herbes grasses dans les pâturages de Franche-Comté, ou qu'il s'agisse d'herbes maigres dans les savanes d'Afrique. En fait, il y a beaucoup de sols, pour raisonner la question, il y a beaucoup de sols dans le monde qui sont des sols qui ne supportent que de l'herbe. Les labourer serait dangereux parce que ça émettrait des gaz à effet de serre et surtout, ça pourrait avoir comme conséquence de déstructurer les sols et d'entraîner de l'érosion extrêmement rapide. Donc, l'herbe est un bienfait public. Mais si l'herbe reste sans être pâturée, c'est extrêmement dangereux pour des raisons écologiques. En fait, il y a une coévolution de l'herbe et des herbivores qui, c'est un petit peu compliqué, mais qui fait que cette coévolution rend le passage des herbivores absolument nécessaire à la régénération des pâturages. Sauf qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'herbivores parce qu'à ce moment-là, il y a du surpâturage. Le surpâturage déstructure le sol, fait des tempêtes de poussière, de l'érosion, et c'est reparti dans le mauvais sens. Donc tout ça, c'est de l'écologie appliquée, ça demande beaucoup de connaissances, de réflexions, enfin c'est pas inabordable, mais il faut l'avoir en tête. La conclusion, pour pas aller trop loin dans la technique, c'est que il y a une grande partie des sols qui sont bien s'ils sont enherbés. Je pense en particulier de quelques sols septentrionaux, qui, s'ils étaient mis en culture, feraient des émanations de méthane et de gaz carbonique qui accentueraient encore de façon tout à fait dangereuse l'effet de serre. Donc, protégeons l'herbe et gardons l'herbe pour nos vaches. Alors, le problème, c'est que dans les discussions sur l'avenir du climat, beaucoup voudraient réduire le nombre de vaches parce que les vaches, qui sont des transformateurs directs de la cellulose de l'herbe, transforment ça par leurs deux extrémités, si je puis dire, enfin je ne fais pas un dessin, par du CH4, par du méthane, qui est un gaz à effet de serre impressionnant. Mais on ne peut pas, quand on fait de l'écologie, avoir tout blanc ou tout noir. S'il faut garder de l'herbe pour éviter l'érosion et des émanations de gaz à effet de serre, il faut des vaches pour manger l'herbe. Et s'il faut des vaches, les vaches produisent du CH4. Le tout, c'est de raisonner en termes d'équilibrage, et ce que l'on gagne à un endroit, on le perd à d'autres, si bien que la réponse à la question sur faut-il manger de la viande ou pas manger de la viande, premièrement, il faut manger de la viande, deuxièmement, il faut manger de la viande de vache, mais pas au-delà, il ne faut pas nourrir les vaches avec des grains, donc ce qu'on appelle les feedlots aux États-Unis, où on nourrit, on fait de la viande en forçage, en leur donnant de l'énergie, c'est inutile et ce n'est pas de la bonne viande. Et alors ensuite, le problème qui reste, c'est le grain pour les humains et le grain pour les porcs et les volailles. Il y a la place pour tout le monde, mais là aussi, avec un peu de discernement et de calcul d'équilibre. En fait, nous, pour reprendre ce que disait Mathieu d'une autre façon, à partir du moment où on accompagne la dynamique de l'écosystème, on doit comprendre l'écosystème et on doit calculer, avec toujours en référence l'intérêt général, et il y a des gains, il y a des pertes, et jamais rien n'est simple. Il faut bien se le dire, et donc ça ne sert à rien de s'invectiver dans des débats sur l'écologie. Il faut prendre sa calculette et faire des scénarios pour voir quels sont les scénarios les plus favorables et les plus défavorables, et en fonction de ça, avec discernement, prendre des décisions.
Quelle est une question ?
Bon, alors, oui, je vais, pour complexifier un peu les choses, sur cette question de la viande, qui m'intéresse quand même beaucoup. Je ne suis pas végétarien, même si je me pose des questions sur l'équilibre global. Il y a un scénario qui a été fait pour la France par l'organisation Solagro. Je vous recommande d'aller le voir, quel scénario AFTER, AFTER2RE, où justement ils ont essayé de calculer la ferme France, comment ça fonctionnerait. Ils ne sont pas végétariens non plus, donc ils ont gardé des animaux. Néanmoins, je vais essayer de pousser le bouchon le plus loin possible, en n'ayant pas comme alternative à ces prairies le fait de les mettre en culture en les labourant, mais en posant la question de la place alimentaire de l'arbre. Alors, évidemment, ça dépend des zones, mais globalement, il faut le chiffre que j'avais lu une fois dans un livre très intéressant sur l'Anthropocène, c'est que les hommes et leur bétail représentent maintenant 95% de la masse des vertébrés terrestres. Des vertébrés, pas de tous les animaux. Les vers de terre restent de loin la masse la plus importante. Mais les vertébrés terrestres, 95%. C'est-à-dire qu'on a, en quelque sorte, occupé avec nous et nos animaux commensaux tout ce qu'on pouvait occuper de la niche écologique. En gros, le reste, qu'on appelle la vie sauvage des vertébrés, est complètement du reliquat. Et probablement qu'on atteint quand même des limites qu'il ne faudrait pas franchir. Or, ces grands ruminants, ils ont comme caractéristique de détruire la matière organique très très vite, justement parce qu'ils savent la digérer. Et d'une certaine manière, on peut globalement considérer que, quelle que soit la taille de l'écosystème, que vous soyez au niveau local ou au niveau terrestre, au final, il vaut mieux capter plus de matière organique que vous n'en détruisez. Sinon, vous mangez votre capital. Vous êtes comme quelqu'un qui dépense plus que ce qu'il n'a. Donc, on voit bien qu'il y a d'un côté les végétaux qui accumulent la matière organique pour faire vite, et de l'autre côté, les animaux qui la détruisent. Donc, pas question de nous détruire, mais en gros, on voit bien qu'il y a un équilibre qui est de cet ordre-là. Alors, pourquoi l'arbre est quand même quelque chose de très intéressant ? C'est que, comme alternative, effectivement, à la prairie, c'est que d'abord, il y a énormément de zones de pelouse en Europe qui sont d'anciennes forêts. Je suis franco-suisse et l'alpage est une création complètement artificielle. C'est les Suisses qui ont créé les alpages. Il y avait quelques pelouses au-delà de la limite des arbres, mais c'est bien en amenant le bétail en hauteur et en coupant que les Suisses ont créé les alpages. Si vous supprimez les Suisses et leurs vaches,
ces zones vont se reboiser. Et probablement qu'à l'échelle de l'Europe, ce sera quelque chose d'excellent. Ce sera excellent parce que, comme les glaciers vont fondre, les remplacer par des forêts est probablement une très bonne manière de réguler les problèmes hydriques, que vous fixerez du carbone, etc. Alors quand je dis ça à mes cousins suisses, évidemment, ça ne les fait pas rire, mais je leur dis, en termes d'organisation de l'espace européen, on devrait exproprier tous les Suisses, alors, tous les riches européens s'y concentrent maintenant, mais on devrait faire l'inverse, et on devrait reboiser tout ça, parce qu'on aurait un énorme château d'eau, etc. Voilà. Donc si on rentrait dans une vraie aménagement du territoire à une grande échelle, ce que nos ancêtres ont fait à des plus petites échelles, mais même les Suisses ont mis des politiques forestières protégeant la forêt au début du 19e siècle, on aurait une logique très différente. Tous les plateaux du Languedoc, ça vous le lisez dans l'histoire de la France rurale, ils étaient boisés avant l'arrivée de l'homme. Ils sont massivement déboisés avant même les zones fluviales. Ils atteignent leur optimum de population en 2500 avant Jésus-Christ. En 1800 avant Jésus-Christ, ils sont devenus les causes secs que nous avons. Et ils n'ont jamais retrouvé leur maximum de population. Donc, l'homme a bien détruit la forêt, puis la matière. Effectivement, l'élevage contribue à maintenir ces beaux causes dans lesquelles on se voyage. Mais ces moutons, en fait, empêchent la forêt de reprendre sa place. Donc vous voyez qu'il y a une ambivalence. Ceci dit, j'aime les randonnées, j'aime la Suisse, etc. Donc je ne suis pas pour dire qu'effectivement il faut exproprier tous les Suisses, mais vous voyez qu'il y a quand même des questions qui se posent en termes de fixation de carbone. La forêt, il faudra une politique forestière mondiale, il faudra que ce soit pensé. Et l'arbre alimentaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qui a sauvé la Méditerranée, fondamentalement, c'est l'olivier. Sinon, on aurait ça à riser jusqu'au bout. Michel, à juste titre, disait tout à l'heure que les Égyptiens n'ont pas commencé dans la vallée du Nil. Ils ont commencé dans les pelouses sèches. Il y a un siècle, les historiens disaient, les malheureux, ils ont souffert d'une sécheresse. Mais maintenant qu'on s'aperçoit que l'homme est capable de changer le climat, on commence à se dire, mais et est-ce que ce n'est pas en pratiquant la bâtie brûlée, en amenant des animaux ruminants divagants qu'ils ont créé le désert ? Tout simplement en bouffant toute la matière organique, ce qui fait que le cycle de l'eau, il n'y a plus de sol, etc. Donc, il y a des grosses questions qui se posent. Bah, donc, une prairie, on peut dire qu'elle pourrait être reforestée éventuellement et être remplacée par du châtaignier quand elle peut, et puis recolonisée comme ça un petit peu, comme la vie qui est partie de l'océan et qui a accumulé la matière organique sur la surface terrestre. Et c'est cette matière organique qui permet quand même qu'on ait des écosystèmes sophistiqués. Alors, c'était pour répondre aussi à la question un peu des équilibres des écosystèmes. Cette idée de l'agroforesterie, elle est de plus en plus travaillée. Il y a un groupe de la FAO qui travaille dessus. Les Chinois travaillent énormément dessus pour lutter contre la désertification. Les pays comme l'Australie aussi. Bon, l'Australie est évidemment un cas particulier avec une désertification très rapide. Mais l'Australie évoque ce qu'aurait pu être un scénario de saharisation. Simplement, comme ils ont des moyens techniques plus puissants, ils le font en un siècle et demi, là où il a fallu 1000 ans pour les agriculteurs du néolithique. Mais ils sont en train de sahariser l'Australie à toute vitesse. Donc là, effectivement, à toutes les échelles, il faut qu'on arrive à retrouver ces équilibres. Donc, j'ai commencé à répondre individuellement, manger de la châtaigne. Question, est-ce que vous voulez faire quelque chose à titre individuel ? Manger de la châtaigne plutôt que du blé, buvez du cidre plutôt que de la bière. Donnez toujours la priorité à des produits qui viennent de l'arbre. Simplement, c'est ma première réponse qui est un peu une boutade, mais la vraie réponse quand on me demande qu'est-ce qu'il faut faire individuellement, c'est ne restez pas seul, ne restez pas un individu. Il n'y a pas d'avenir à l'individu seul. D'ailleurs, l'individualisme n'est possible que parce qu'il y a société. Vous mettez quelqu'un de... D'ailleurs, c'est très intéressant, je vais faire un aparté, mais c'est très important dans la psychologie des Occidentaux par rapport à ce qu'on a découvert depuis sur les grands singes, c'est que si vous regardez tous les auteurs du 17e, 18e siècle, à commencer par Vico, donc c'est début du 18e, et c'est très net chez Rousseau, quand ils essayent de comprendre comment l'homme est apparu, ils se persuadent qu'il y a eu un état antérieur de l'homme, qui est l'homme sauvage. Et comme le seul animal qu'ils aient à portée de la main qui ressemble le plus à l'homme, c'est l'ours, ils imaginent que les hommes, à l'état de nature, vivent seuls mâles et femelles séparément, qui se rencontrent pour s'accoupler, et puis qu'après ils ont l'idée de famille, et puis que de l'idée de famille naît l'idée de société. Or, quand on regarde les grands singes, à part quelques cas assez rares comme l'orang-outan, tous sont des animaux sociaux. Et on peut subodorer que l'individu n'apparaît que parce qu'il y a société. C'est-à-dire que c'est la société qui fait l'individu et pas les individus qui font la société. Et ça, c'est un changement de vision qui est radical. Donc, si vous voulez agir individuellement, ne soyez plus un individu, ne soyez plus individualiste. Rejoignez des groupes comme les gens qui font des banques solidaires, la NEF, comme les gens qui font les AMAC. Tout ce qui marche, c'est des gens qui se regroupent. Donc, regroupons-nous. C'est la première chose. Après, on peut le décliner, mais évidemment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, changez vos modes de consommation, changez vos modes de déplacement, réfléchissez à l'impact de vos produits. Il y a des tas d'outils qui existent pour mesurer des tas de choses. L'ADEME fait des choses excellentes, etc. Donc vraiment, il y a 25 ans, on aurait pu dire que quelqu'un qui se posait la question « qu'est-ce que je peux faire moi ?» Ah, il fallait des pionniers, il ne leur faisait pas partie, il aurait peut-être rien fait. Mais alors maintenant, entre les banques éthiques, la consommation éthique, les produits agricoles, fair trade, etc., je crois qu'il y a vraiment des tas de choses à faire.
Michel Griffon, sur ce point.
Oh, je suis tout à fait d'accord. Je rajouterais simplement aussi une chose. Regroupons-nous, oui, mais pas n'importe où. Il y a des organisations qui réfléchissent, il y a des organisations qui ne réfléchissent pas, pour qui tout doit être simple, simpliste. Et le simplisme est vraiment l'ennemi de la réflexion. Donc il faut bien choisir les mouvements dans lesquels on décide de militer, et il faut choisir les endroits où on réfléchit et où on remet en cause ses propres idées, ses propres conceptions au fur et à mesure qu'on réfléchit. Il faut avancer, non pas se cantonner dans des idées reçues éternellement immuables. Voilà, il ne suffit pas de se dire « regroupons-nous », il faut choisir les bons endroits. Je pense par exemple en écologie, l'organisation qui est présidée par Hubert Reeve, Humanité et Biodiversité, c'est un endroit où il y a vraiment la capacité de réflexion, on fait venir des gens qui ont beaucoup réfléchi, on fait venir des chercheurs, on pose des questions, on avance. On avance. Voilà. Ce n'est pas un parti politique figé.
Voilà, nous reprenons 2-3 questions. En attendant que les questions arrivent, moi je demanderai. Mais Bordeaux n'est plus en ligne, je crois. Ah, alors Bordeaux.
Alors, à Bordeaux, et ça fait une bonne continuité avec ce qu'on vient juste d'échanger, quelqu'un s'interroge sur les nombreuses pétitions qui circulent en ligne, donc la manière d'être, on pourrait dire, éco-citoyen. Est-ce qu'il y a, d'abord, est-ce que vous pensez que ce mode d'action, ça s'adresse tout particulièrement, je pense, à Mathieu, est utile? Et si oui, sur quoi vous inviteriez à être plus attentif ou militant?
Voilà, donc une question sur les pétitions en ligne. Moi, j'aurais une question sur... vous avez fait allusion à la conférence de Paris qui doit se tenir à la fin de l'année. Au fond, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette conférence par rapport aux enjeux qui sont soulevés ce soir? Est-ce que vous voyez des points précis où la réflexion a pu préparer, déjà des débats, des confrontations de cette conférence?
Oui, je suis... Bien qu'averti, je m'estime encore sous-informé et pas très capable de répondre de façon satisfaisante à cette question. Mais ce que je dirais, c'est que le problème de cette négociation, c'est que le changement climatique n'a pas les mêmes effets dans chaque pays. Pour certains pays, le changement climatique, c'est la disparition pure et simple, dans les flots, d'ici une centaine d'années. Pour d'autres, je pense au Canada ou à la Russie, c'est un accroissement de température, un accroissement de pluviométrie, c'est la possibilité de produire plus de biens alimentaires. Curieusement, entre guillemets, excusez mon esprit taquin, ce sont des pays qui ne sont pas particulièrement favorables à ce qu'il y ait une conclusion à cette grande réunion à Paris, une conclusion positive. Il y a des pays qui vont y perdre parce qu'ils ont une grande partie de leur agriculture dans des zones côtières à entre 0 mètre et 1 mètre d'altitude, ainsi que des grandes villes. Il va y avoir des coûts gigantesques. Il y a des pays qui vont y perdre parce qu'ils sont sur les trajectoires des cyclones. Les cyclones seront plus importants. Donc, la question, c'est qui peut gagner, qui peut perdre. Même en Europe, tout le sud de l'Europe va y perdre du point de vue climatique, le nord de l'Europe va y gagner au plan climatique. Et un accord est bien sûr une chose difficile parce qu'il y a la question du passé et la question du futur. La question du passé, c'est, entre guillemets, c'est la faute à qui ? C'est celui qui a fait la faute qui doit payer. Sauf que ça pose quand même un immense problème, c'est que la faute, c'est d'avoir brûlé le charbon et le pétrole. On appelle ça une faute environnementale aujourd'hui, on met de la culpabilité, alors que personne ne savait que c'était un danger potentiel pour les siècles suivants. Et donc, tant qu'on s'envoie à la figure ce genre d'argument et qu'on continue à dépenser, à brûler du charbon et du pétrole, on va vers le précipice, collectivement. Et le futur, ça peut être la même chose, parce que quand on fait la carte de ceux qui gagnent et la carte de ceux qui perdent, il n'y a aucune raison qu'il y ait un accord. Aucune. J'ai fait l'exercice pendant une journée sur tous les problèmes que l'on peut trouver dans la littérature, l'inondation des deltas, les zones basses, les îles qui vont disparaître, les trajectoires des ouragans, etc. Il n'y a qu'une seule chose qui est importante, c'est que quelques grands pays vont être menacés. Les États-Unis, de façon importante, ils ont quand même connu la disparition d'une ville, c'est pas peu de chose, la Nouvelle-Orléans. Le Brésil peut avoir des sécheresses à répétition, il en a déjà eu dans l'Amazonie, et ça n'est pas fini. La Chine du Sud peut être gravement menacée, l'Inde peut être gravement menacée, il y a quelques très grands pays, l'Europe aussi. Et puis, que va-t-il se passer dans une Afrique qui serait traversée en permanence par des sécheresses et par des intempéries, avec 3 milliards 600 millions d'habitants espérés en 2100 ? Où vont-ils aller ? Comme la migration est la réponse historique à la dégradation des territoires, que sera un monde où on aura entre 1 milliard et 2 milliards de migrants potentiels ? Je pense que ces choses-là, si elles sont mises sur la table, sont de nature à... Alors, je n'aime pas ce que je vais dire, mais sont de nature à faire peur, et en espérant que la peur puisse avoir des vertus, ce que personnellement c'est un thème d'interrogation, la peur est très mauvaise conseillère, ça génère des mouvements politiques généralement extrémistes, simplistes, etc., voire populistes, mais... La perspective d'un danger chez les uns dans le changement climatique est une perspective qui est vraisemblablement qui étend le danger à l'ensemble du monde. Donc si on arrive à faire ce raisonnement avant la fin de l'année, c'est-à-dire que le malheur des uns est le malheur de tous, la peur aura été efficace. Mais je suis comme Mathieu, j'ai aussi quelques doutes sur la, bien que beaucoup d'espérance, j'ai quelques doutes sur la capacité de nos différentes sociétés, dans leur multiplicité et leurs différences, à pouvoir s'entendre.
Et au fond, malgré ces diversités et ces différences, il va y avoir un phénomène de solidarité, de fait, si l'on veut survivre.
Ben, j'ose espérer qu'un certain nombre de chefs d'État, numériquement assez nombreux, et assez intelligent et assez fort médiatiquement, arrive à créer ces instants merveilleux dans la vie des sociétés où on oublie les conflits et où on se projette dans l'avenir de façon positive.
Mathieu Calame, cette conférence de Paris, il peut y avoir des points d'évolution. Lesquels?
Alors, il y aura l'aspect officiel et il y aura ce qui se passera, les changements que produit quand même le processus à long terme. Officiellement, c'est vrai que l'un des problèmes, c'est qu'un certain nombre de grands pays, notamment les États-Unis et la Chine, n'acceptent pas par principe un accord contraignant pour des raisons de souveraineté nationale. Alors, évidemment, nous, en Europe, comme la construction européenne s'est faite en abandonnant une partie de la souveraineté, on s'est accoutumé à ça. Il y a quand même encore beaucoup de pays dans le monde où ça pose problème. Et même, regardez, Schengen est remis en cause. Puis quand notre Premier ministre dit « on ne parle pas comme ça à la France, qui est un grand pays », on peut se dire que, ce qui fait un peu rire, mais on peut se demander si un retour du nationalisme n'est pas aussi possible. Mais disons que les Européens sont probablement, pour l'instant, ceux qui ont l'expérience, ont eu jusqu'à présent une expérience assez positive du dépassement du nationalisme. Donc je pense qu'un accord contraignant, ce n'est pas évident. Par contre, qu'il y ait un début de discussion où chacun dit « ok, tu restes libre dans ton coin, mais globalement, on est à peu près d'accord, etc. Que, » que les grandes villes fassent pression et qu'il y ait des changements qui partent comme ça à des niveaux plus municipaux, régionaux, ça je crois que oui, ça va se faire, où le monde industriel, il y a quand même certains industriels qui commencent à vraiment se poser des questions. Alors, il y a un choc entre des lobbies industriels différents, hein. Ne demandez quand même pas au lobby du pétrole de se suicider, non. Donc il va falloir un peu le suicider, si je puis dire, mais bon, mais ça c'est dans les changements d'époque, il y a toujours des tensions, il y a ceux qui étaient les bénéficiaires de l'ordre ancien, et effectivement, ils n'ont pas tellement envie de perdre la place prépondérante qu'ils ont, mais il y a d'autres forces qui sont en train de se mettre en place, et notamment, je crois beaucoup que les grandes municipalités, les grandes villes peuvent jouer un rôle moteur, y compris pour le développement de nouvelles technologies ou de nouvelles organisations, ou d'ailleurs, quand on dit de nouvelles technologies, d'avoir des applications de technologies qu'on a dans les tuyaux depuis 50 ans, mais qu'on n'a jamais appliquées parce que le lobby faisait qu'on ne les appliquait pas. Voilà. Donc là, moi, je serais assez... Si on regarde cet aspect-là, je serais assez confiant dans l'idée que, notamment, les villes vont faire des déclarations, les mouvements de la société civile vont bouger, etc. Il va falloir... Alors, l'Église est en train de bouger. Alors, c'est vrai que, par exemple, l'Église luthérienne a cessé d'investir dans le pétrole depuis une dizaine d'années, que le pape François vient d'annoncer que la Banque du Vatican allait faire la même chose. Donc, ça aussi, on peut dire qu'il y a des forces spirituelles qui aussi s'emparent de cette question. Donc, voilà, on peut quand même espérer... Alors, la question, ce sera plutôt une question de vitesse, en fait. C'est est-ce que les dynamiques positives vont aller assez vite, aussi vite que le changement climatique? Des fois, j'ai un peu des sueurs froides, pour ne rien vous cacher, mais on va essayer d'aller assez vite avec moins d'énergie quand même, ce qui est une sorte de paradoxe, mais voilà. Alors, sur la question des pétitions...
Sur le point encore des accords, finalement, les accords bilatéraux ne sont pas si inutiles que ça. Alors, on peut souhaiter, évidemment, une politique globale... Mais les accords bilatéraux ou trilatéraux, ça peut faire avancer.
Par défaut, de toute façon, il vaut mieux une série d'accords bilatéraux que pas du tout de dialogue. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'en Équateur, les accords pour, par exemple, ne pas utiliser la réserve de pétrole n'ont pas tenu leurs promesses, etc. Donc, il faudrait quand même du multilatéralisme à l'échelle des régions du monde, en fait. C'est là que je pense que l'Europe peut faire quelque chose. Même les États-Unis, les États négocient entre eux. Si on prend ces grands blocs, il y a des choses qui sont faisables, hein. Donc, après... Sur la question de la pétition, moi, ma position, ce sera celle de Paul dans la lettre aux Corinthiens. Il faut une diversité des charismes. Donc, je ne peux pas répondre « oui, c'est une pétition qu'il faut faire » ou « non, pas du tout, mon brave ou ma brave, vous n'y pensez pas, il n'y a pas besoin de pétition ». Je pense que le propre d'un mouvement... qui doit être un mouvement de société, qui va se déployer sous des formes différentes. Par contre, et ça je veux l'affirmer très très fort, il y aura une dimension politique et elle sera indispensable. Je le dis parce que dans le monde des fondations, c'est soutenir la société civile, c'est le grand leitmotiv, on a rêvé qu'on allait faire de la société civile. Quand vous êtes en face de Vladimir Poutine, vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez de société civile, vous êtes en face d'un problème politique. Et pour le climat, il y aura un moment une dimension politique également. Donc, là-dessus, les pétitions valent ce qu'une pétition
peut valoir sur un monde politique donné. Si les forces politiques, les partis qui ont le vent en poupe, sont pour un repli nationaliste, sont pour la logique de l'affrontement et la logique de puissance, même si tout le reste de la société est contre, c'est eux qui l'emporteront. Parce qu'à un moment, les 15% d'organisés et décidés ont plus de force que les 85% qui sont divisés. Ça, je le dis très franchement, on n'est plus dans les années 90. J'aimerais quand même dire quelque chose là-dessus, sur aussi, par rapport à ce que nous sommes comme, en tant que chrétiens. Au moment de la scène du Christ et des marchands du Temple, on est toujours un peu embêté face à cette parabole. Au fond, on fait des tas de circonvolutions intellectuelles pour justifier que quand même il s'énerve, alors qu'il nous a dit tout le temps qu'il fallait tendre la joue gauche. Et pourquoi il ne tend pas la joue gauche? Mais si on pense à ce qu'a fait Stéphane Hessel, on peut dire, est-ce que ce n'est pas une condition de l'apostolat réel que d'avoir cette capacité d'indignation? Est-ce qu'on a besoin de la justifier, ou au contraire, on doit se dire, avons-nous nos moments où nous chassons les marchands du temple? C'est tout. Et je pense que l'action politique s'inscrit là-dessus. Il y a de quelque chose qui est de l'ordre du rapport de force. Et le Christ n'est pas quelqu'un qui ignore le rapport de force. Il ne dit pas que ça se réduit à ça, mais je crois qu'il ne l'ignore pas. Et des fois, on a des côtés un peu guimauves.
Voilà, nous prenons une dernière série de questions. Bernard Bougon, au milieu de la salle, à droite.
Bernard Bougon, Centre Sèvres. En vous écoutant, je me demande si, pour vous, la notion d'empreinte écologique a un sens.
Là, une première question. Quelqu'un d'autre ? Oui, devant.
Est-ce qu'il faut aussi un petit peu changer l'homme, nous? Parce que si on se sent plus solidaire envers l'autre, mais du pays s'approche à l'autre, et ton problème et le mien s'approchent plus comme dans votre direction, à ce moment-là, quelque chose pouvait se développer qui pouvait aider de résoudre beaucoup de problèmes. Parce que vous avez bien dit, ça c'est très complexe, on ne peut pas s'en résoudre comme ça. Mais au même, si l'homme change, parce que la technique est là, mais si l'homme change, on voit de l'autre quelque chose qui doit... Il faut faire des sacrifices aussi, ça c'est sûr. Un pays a cela, un problème là. Si tout le monde se sent concerné des pays, et quelque chose s'est créé ensemble, à ce moment-là, je crois que ça sera toujours positif. Ça c'est de longue durée.
Merci madame. Je crois que devant... Monsieur, oui.
Bonsoir. Je voulais revenir sur l'histoire de la viande. Parce que, en fait, on en a parlé, mais je voudrais savoir à peu près cette histoire de pâturage. Est-ce que finalement la viande qu'on mange, j'ai l'impression que c'est l'agriculture industrielle, c'est pas trop dans les pâturages que ça se passe, quoi. Donc et que ça doit concerner peut-être une part très très importante finalement de notre consommation de viande. Donc j'aimerais qu'on précise ce point. Voilà. Et puis après, je me fais une réflexion. J'ai vu des documentaires récemment sur Arte. Enfin, un sur les pesticides et sur leurs effets, et puis un autre sur les circuits de la viande, justement. Et je me demande si finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas simplement commencer à mettre du poing sur la table et à interdire certaines choses, quoi. Parce que quand je vois le reporter qui montrait les effets du glyphosate, maintenant, bon, il semblerait qu'on a vraiment plus que des présomptions qui sont vraiment très très fortes. Et est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut dire stop, quoi, voilà.
Voilà, merci. Je ne sais pas si on commence par la viande ou par l'empreinte énergétique.
On peut retourner l'empreinte à la viande.
Ah, la viande. Nous sommes très carnivores ce soir.
Bon, moi, ce que je ne peux dire que mon attitude personnelle, la façon dont je résous la question de la viande. Premièrement, je ne mange pas de viande, de feedlot, c'est-à-dire des viandes poussées, forcées, des viandes bovines à partir de maïs, de soja, etc. Ça, c'est totalement banni. D'ailleurs, c'est très mauvais. Deuxièmement, je mange assez peu de viande de vache, mais que de la viande de qualité. Voilà. Troisièmement, je mange peu de viande de porc et peu de viande de volaille, mais j'en mange correctement. Au lieu de manger, comme dans la moyenne européenne, 80 kilos par personne et par an, j'en mange 15 kilos. Et j'ai calculé que si tout le monde faisait pareil, on aurait des sols en herbage en quantité suffisante pour protéger les sols. Je suis tout à fait d'accord avec la remarque qui consiste à mettre des arbres, et notamment des arbres producteurs de fruits, repenser en même temps ces arbres dans le paysage pour qu'ils puissent contribuer à la régulation de l'eau. Pour pas qu'au lieu d'acheter un gigot forcé, on a pris un gigot très cher de d'agneau du Limousin, mais on a fait vivre un éleveur d'agneau du Limousin, et certes on pourrait couvrir le Limousin de forêt, mais il y a des régions du Limousin qui sont très jolies en pâturage. Donc chacun trouve en équilibrant les raisonnements et en tâtonnant sa propre solution. Mais vous remarquerez que je vous ai dit que j'avais baissé considérablement la consommation de viande. Alors il y a une raison médicale, c'est que la consommation de viande de porc, la consommation de viande de vache, les viandes grasses en général, et la peau des volailles sont dangereuses pour la santé, puisqu'ils contribuent à boucher les artères coronaires. Voilà.
Les gigots des présalés sont également très bons.
Oui. Non, d'une manière générale, la qualité plutôt que la quantité et la réflexion, la tempérance.
Voilà. Sur la question de l'empreinte...
C'est bien.
Oui.
Sur la viande, moi je suis 100% d'accord avec ce qu'a dit Michel, donc je rajouterai rien. Alors, deux choses, oui, l'empreinte écologique et changer l'homme. Sur l'empreinte écologique, je trouve que ce que Wacker Nagel, je crois, s'appelle, a eu une idée géniale en termes de donner à voir quelque chose aux gens. Alors, évidemment, il ramène tout à une surface de terre. Donc, il a été très critiqué là-dessus. Évidemment, quand vous réduisez une réalité multidimensionnelle à une seule dimension, il y a des problèmes de mensuration. Est-ce que c'est, on peut le ramener à ça? Je reste persuadé qu'il savait lui-même les limites de son processus, mais qu'il voulait ramener à quelque chose de très visible, qui est l'unité de sol dont on dispose. Il faudrait supposer qu'il y ait de la vie sur ce sol, etc. Donc, moi, globalement, je trouve qu'en termes de communication, d'éléments pour réfléchir, c'est une idée géniale. Voilà, je le dis franchement. Alors, après, toutes les critiques qu'on peut faire sont vraies, mais à la limite, c'est à ceux qui critiquent de faire mieux. Alors, c'est vrai que Rockström, lui, qui utilise la notion de limite de la planète, planet boundaries, je crois qu'il a recensé 9 facteurs. Donc, d'une certaine manière, il nous présente un espace en 9 dimensions et pas une dimension. Ce qui est certain, c'est que tous sont d'accord pour dire que le dollar ne suffit pas pour gérer la planète comme unité de mesure, pour une raison bien simple, c'est que vous pouvez produire autant de dollars que vous voulez. C'est illimité, les capacités de production de dollars, et le monde, lui, est limité. Donc, en soi, gérer quelque chose de limité avec une unité illimitée, il y a une contradiction. Donc, tous ces gens cherchent des indicateurs et cherchent à faire que ces indicateurs prennent une puissance politique aussi, qu'ils puissent être utilisés pour des normes. Et donc, pour dernière chose, changer l'homme. Alors, bon, évidemment, après le 19e... Pardon ? Voilà. Mais comme à un moment, vous avez dit changer l'homme, c'était intéressant parce qu'évidemment, le XXe siècle fait que c'est des choses qu'on n'oserait plus penser et dire, même si le christianisme, c'est un appel à ce que l'homme se change lui-même. Voilà. Mais j'aurais envie de répondre par cette boutade, c'est qu'on demandait à Ernest Renan, Dieu existe-t-il ? Et Ernest Renan avait répondu, pas encore. L'homme existe-t-il ? Pas encore. C'est-à-dire que le processus d'aller vers cette humanité dont on rêve n'est pas encore achevé, mais j'ai l'espoir que nous y contribuons tous. Et c'est vrai qu'en ça, on va changer. Et ça nous amènerait à dire, à un moment où vous avez dit, il faut faire des sacrifices.
C'est déjà changé de considérer que le don à autrui n'est plus un sacrifice. Et je crois que ça, c'est une idée cruciale. Le jour, moi, par exemple, j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion, ce qui me pose des problèmes énormes professionnels. Mais je le conçois comme un don, j'ai une génération future, et pas comme un sacrifice par rapport à mes désirs. Parce que mon désir des générations futures est plus important que mon désir d'aller vite. Voilà. Et donc, je crois que si on passe de la logique du sacrifice à la logique du don, qui, à mon avis, est un message crucial dans la Bible, à la fois avec le sacrifice d'Abraham et le sacrifice du Christ, on rentre aussi dans une autre anthropologie.
Je fais comme toi, Mathieu, je ne prends plus l'avion.
Oui.
Et j'ai beaucoup péché.
Mais c'était, ouais, c'était une autre époque.
Allez-y.
À propos de votre remarque, madame, il y a une chose à laquelle je pense souvent, qui me semble être une clé pour le futur, en tout cas dans notre pays, c'est que dès l'école, on apprenne que la coopération soit plus efficace que la compétition. Parce que, alors notamment sur toutes ces questions qui nous occupent ce soir, coopérer fait passer à un stade supérieur de civilisation, alors qu'être en compétition nous renvoie complètement dans le mur de l'écologie, le mur du changement climatique, etc. Et donc, ça me semble être une chose qui est à portée de nos sociétés dans la pédagogie.
Voilà, écoutez, un très très grand merci à vous, Michel Griffon et Mathieu Calame. Voilà, je crois que vous nous avez bien aidé à situer les problèmes à différents niveaux, géopolitiques, et puis à la fin, cette dimension, je crois, anthropologique très très forte, et certainement qu'on retiendra cette phrase sur la compétition et la coopération. Je crois qu'elle est tout un programme pour nous. Voilà, un grand merci. Je pense que cette soirée nous aidera aussi, dans l'année qui vient, à prêter une attention plus forte à la conférence de Paris, mais aussi à tout ce qui peut se manifester dans ce champ de questions. Notre prochaine soirée sera un sujet assez différent au mois de mai. Elle portera sur la place actuelle de la Chine dans les relations internationales. Et peut-être que par certains côtés, nous pourrons nous retrouver ce soir. Voilà. Vous trouverez des urnes à la sortie pour participer aux frais d'organisation de la soirée. Je vous remercie et bonsoir.